Avec silence sur le quai, Alain Bujac documente la ligne ferroviaire Béziers-Neussargues, une des plus belles d'Europe, qui traverse le Massif central. Repérage, entretien avec les acteurs qui ont lutté pour empêcher son démantèlement. D'autres documentaires dessinés, romans graphiques historiques et récits de vie encadreront Silence sur le quai. Nous serons avec Alain Bujac vers 14h15. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, Marin est en régie. La programmation musicale a été faite par Alain Bujac et vous allez écouter successivement Jean-Sébastien Bach, Ray Cooder et Henri Texier. Commençons cette émission avec le livre de L'Olmède, Un autre Toulon. Alors, L'Olmède est un auteur qui s'est fait connaître en 1996 en démarrant une série moins 4 ans avant l'an 2000 et qui nous a amené jusqu'à l'an 2000. C'était publié par les éditions Alain Bollet et on découvrait le dessin d'Alain L'Olmède. C'est un auteur avec une œuvre foisonnante où il va prendre assez régulièrement son quotidien comme sujet principal de son œuvre. C'est un auteur qui répond également à des commandes ou participe et fait des résidences dans différentes localités. C'est le cas avec un autre Toulon, puisque le livre a été écrit dans le cadre d'une résidence d'artiste expérimentale et pluridisciplinaire en quartier prioritaire. Le quartier, eh bien, c'était celui du Bas-Toulon à Périgueux. Le projet nous immergeait dans ce quartier d'un autre Toulon, puisque là, dès les premières pages, nous sommes à Périgueux. L'Olmède a organisé son récit, qui est un récit important. C'est un format italien, au format paysage. Il y a plus de 80 pages. Donc, il va nous emmener dans ce quartier intitulé Le Toulon, à Périgueux. Alors, L'Olmède est un artiste qui a un dessin très attachant, qui n'est pas du tout dans un réalisme simpliste, mais qui au contraire va être très attentif, très attaché aux détails, à ce qui va permettre de reconnaître, de nous situer dans un lieu, mais de le traiter avec son propre regard. C'était déjà à l'œuvre dans moins X avant l'an 2000, et cette fois, il a eu donc plus de 20 ans pour peaufiner cette écriture et la rendre encore un peu plus précise. Elle garde son fourmillement de détails, mais elle permet d'être très facilement avec les personnes et dans les lieux. Dans un autre Toulon, L'Olmède va utiliser les rencontres avec les personnes marquantes du quartier, leur donner donc une parole, va les rencontrer, faire des entretiens et va même reprendre des écrits ou des dessins, des peintures que les personnes auraient pu faire. Et puis, il y a une façon donc de tenir le réalisme à distance, de ne pas s'être dans cette approche simpliste de l'écriture dessinée, mais d'être toujours dans cette précision, alliée avec un geste, avec un trait vivant, où il y a cette façon de laisser le geste tracer les silhouettes, de leur donner vraiment le geste, le regard, une émotion, une stature, tout ça avec ce dessin très souple et toujours précis. Un exemple, en présentant Benoît, qui est quelqu'un qui est arrivé récemment dans le quartier de Toulon, et cette personne a acheté une maison avec un jardin, et dans le jardin, il y a un vieux pigeonnier. La photo aurait rendu ce pigeonnier de façon précise, bien évidemment, mais sans véritablement lui donner toute la vie qu'on peut ressentir. Le dessin de l'Olmède va reprendre le pigeonnier, mais va lui donner une histoire. Le trait qui n'est pas rectiligne, qui est tracé à main levée, mais qui est précis, campe ce pigeonnier et lui donne toute son ampleur. Chacune des images de l'Olmède va donc renseigner, documenter, nous emmener, nous guider dans le quartier Le Toulon à Périgueux. Il y a une organisation un peu à la manière d'un texte illustré, mais qui va avoir aussi ce rapport direct avec la bande dessinée, simplement parce que le texte est calligraphié. Et il est calligraphié avec le même trait que celui du dessin de l'Olmède. Et donc il y a dans l'écriture même de l'Olmède cette vie, cette chaleur, cette émotion qui colle parfaitement à son regard sur la ville. Un autre Toulon est donc une immersion dans la ville de Périgueux, dans ce quartier qui a une histoire étonnante, comme nous le montre le livre, et qui fait que cette résidence, eh bien, fait mouche. L'Olmède remplit pleinement et réussit pleinement son projet en donnant à ce quartier une dimension que l'on approche et qui fait, eh bien, on va passer dans ce quartier du Toulon à Périgueux parce que l'Olmède nous y invite de la meilleure des manières. Un autre Toulon de l'Olmède avec une mise en couleur de Isabelle Merlet qui, elle aussi, touche juste. C'est publié par les éditions Ouïdir et les 84 pages de ce livre sont au prix de 25 euros. Poursuivons avec L'Escamoteur, un roman graphique de Sébastien Goethals et Philippe Collin. Il est sous-titré en premier plat de couverture « Un polar politique au cœur de la France des années 70 ». Alors ces années 70, eh bien, non seulement en France, mais aussi en Europe, ce sont des groupes armés d'extrême gauche qui ont choisi l'attentat, l'enlèvement, le braquage pour lutter, s'opposer et anéantir l'impérialisme et le pouvoir bourgeois. En France, c'est Action Directe, en Italie, c'est les Brigades Rouges, en Allemagne, c'est la bande Abadère, injustement nommée. L'Escamoteur va donc nous immerger dans ce qu'est Action Directe et ce qu'a été Action Directe en France. Alors, pour certains, et en tout cas c'était mon cas, j'avais quelques idées sur Action Directe, mais elles restaient relativement imprécises. Malgré des lectures de Jean-Marc Rouillant, c'était pas aussi intense que ce que nous apporte comme information, comme documentation historique, Sébastien Goethals et Philippe Collin. Sur cette idée de Sébastien Goethals, les auteurs ont écrit cette plongée dans Action Directe. Ce cheminement narratif, ce cheminement créatif fait partie également de ce roman historique, tout simplement parce que des scènes où les échanges entre les deux auteurs montrent comment ils ont cherché les angles de vue les plus précis, comment ils ont cherché à mettre en scène qu'est-ce que représentait à la fois Action Directe, ce que représentaient les renseignements généraux à l'époque, cette lutte contre l'extrême gauche qui va d'ailleurs changer avec l'arrivée de Mitterrand en 1981, puisque à ce moment-là, les renseignements généraux vont s'occuper de l'extrême droite. Le roman graphique est construit à partir de cette traque d'Action Directe, de cette traque de leurs protagonistes essentiels, comme par exemple Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, qui sont les figures, les leaders du mouvement, mais il y a aussi Régis Schlecher, qui est aussi un autre intellectuel qui a porté également le mouvement. Il y a la sœur de Nathalie Ménigon, Joëlle Ménigon. Pour pouvoir lutter contre Action Directe, eh bien, les renseignements généraux ont utilisé un informateur, quelqu'un qui s'est introduit dans l'entourage de Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon. Et cet informateur, c'est Gabriel Chahine. Et ça devient le personnage principal de ce roman graphique. C'est autour de lui que tout le récit va s'articuler. On va pouvoir passer d'un groupe à l'autre, du groupe des membres d'Action Directe, des militants d'Action Directe, et du groupe des renseignements généraux, avec notamment le commissaire Ponchon qui les porte, les organise, qui rend des comptes aux politiques, et Serge Savoie qui sera le bras droit de Ponchon. En utilisant cette forme de récit, les auteurs, Sébastien Goethals et Philippe Collin, se sont placés à hauteur d'homme. On est donc vraiment dans leur proximité. Et c'est le dialogue qui va porter le récit. On est constamment dans les discussions entre les différents groupes, comment Chahine va utiliser différents contacts, comment les RG vont essayer de monter, d'échafauder des actions pour arrêter les membres d'Action Directe, ou comment Action Directe vont par exemple mettre en place des protocoles de sécurité extrêmement précis et qui leur a permis à de très nombreuses reprises d'échapper au RG. Le dessin et la mise en scène vont s'adapter à ce parti pris de récit, puisque on va être très proche des personnages. On est dans leur proximité. C'est cadré ce qu'on appelle le plan américain, c'est-à-dire où l'image est coupée au milieu du buste. On a des plans, bien sûr, un peu plus larges, mais très facilement, on va être dans cette proximité, le plan américain ou le gros plan, parfois le très gros plan. Il y a donc pour Sébastien Goethals le défi d'être toujours précis dans les expressions, de les renouveler, de permettre au lecteur d'apprécier toute la palette que chaque protagoniste pourra avoir dans les expressions de son visage, en lien constamment avec le dialogue, et ça apporte beaucoup à l'intensité de la lecture de ce roman graphique. Toutes les scènes qui sont celles des deux auteurs en train de construire ce roman graphique vont être traitées avec un dessin différent, et on va donc avoir immédiatement, dès leur présence dans une double page, ce repérage graphique qui va permettre de nous situer. Sébastien Goethals va également utiliser la bichromie, c'est-à-dire une couleur additionnelle au noir et blanc, pour pouvoir signifier aussi les temporalités. À chaque fois, il va y avoir une couleur qui sera attachée à une période, et ainsi, on va pouvoir aussi, simplement par le changement de couleur, qui peut être parfois sur une ou deux cases dans la page, immédiatement savoir qu'il y a un changement d'époque, un complément, une information, une citation. C'est un groupe qui a eu une importance énorme, notamment au moment des élections de 1981, parce que le pouvoir giscardien était très inquiet de ce que portait comme idéologie les membres d'Action Directe. Lorsque Mitterrand va arriver au pouvoir, et c'est aussi traité dans le livre, il y a ce changement d'orientation pour les renseignements généraux qui vont abandonner un peu plus l'extrême gauche et qui vont porter leurs efforts aussi sur les groupuscules d'extrême droite. Il y a un cahier historique de Fabien Archambault, qui est historien et qui va apporter une lecture d'universitaire sur cette présence d'Action Directe en France. C'est un roman graphique assez remarquable parce que il va bousculer toutes les idées parfois un peu simplistes que l'on a pu avoir sur ce groupe d'extrême gauche qui choisit donc la lutte armée. C'est un roman graphique qui ne pointe pas les bons et les méchants. Il relate toute une histoire qui va nourrir également notre compréhension du présent. L'escamoteur de Sébastien Goethals pour la partie dessin, de Philippe Collin et Sébastien Goethals pour la partie scénario. Philippe Collin est par ailleurs essayiste et romancier et c'est publié par les éditions Futuropolis. Les 320 pages de ce livre sont au prix de 26 euros et le livre a été imprimé en France. Thank you. Avec Silence sur le quai, Alain Bujak poursuit son témoignage des résistances contemporaines. Après l'eau vive retraçant la lutte historique contre un barrage, puis le bruit de l'eau sur les enjeux de l'eau, aujourd'hui, à chaque fois, l'auteur partage ses rencontres avec les acteurs et activistes de terrain. Avec Silence sur le quai, Alain Bujak nous emmène sur le tracé de la ligne Béziers-Neussargues, à travers les somptueux paysages du Massif central. Une ligne longtemps menacée de démantèlement à l'encontre de toutes les orientations politiques imposées par la transition écologique. Nous rencontrons Jackie, qui s'est battu plus de 30 ans pour préserver cette ligne, classée parmi les plus belles d'Europe. Éric, conducteur de train, Jean-Claude Guessot, ancien ministre, témoin des contradictions du politique. Béziers-Neussargues, c'est l'atout de la décentralisation. C'est le moyen d'une mobilité écologique. Ce fut pendant longtemps l'oublié de la SNCF. Elliot Royer, dessinateur de Silence sur le quai, apporte un réalisme précis, une mise en image de ces paysages marquants, une attention à chacun des protagonistes. Une mise en scène fluide, plaçant le lecteur au cœur de cette résistance toujours actuelle. C'est une nouvelle collaboration pour Alain Bujak, qui est scénariste-photographe. Il est avec nous pour nous faire découvrir cette ligne ferroviaire Béziers-Neussargues. Bonjour Alain Bujak.
Bonjour.
Alors, comment est né ce projet et cet amour pour cette ligne Béziers-Neussargues, qui est donc au nord du Massif central?
Déjà, moi, je suis originaire du Massif central, donc c'est un territoire qui m'intéresse. Et c'est un territoire de moyenne montagne et que j'ai crapahuté pas mal, enfin, en randonnée ou à vélo. C'est des territoires que j'ai beaucoup sillonnés. Depuis longtemps, je m'interroge sur leur avenir, puisque l'agriculture est partie. Il y a eu l'exode rural. C'est des gens qui souvent sont confrontés à une forme d'isolement. Ils ont appris à se débrouiller un peu seuls. Et cette ligne fait un peu un trait d'union entre toutes ces petites gares, toutes ces villes, ces petites communes, et c'est un lien social important.
Alors, vos livres sont toujours marqués par un regard politique. Alors, comment avez-vous abordé cet aspect politique de cette préservation de la ligne donc Béziers-Neussargues, et pas seulement en racontant les résistances du comité que dirigeait Jackie ou que présentait Jackie?
Quand c'est comme ça, moi je me place vraiment en tant que citoyen qui observe et qui est amené à se poser des questions. Donc je ne cherche pas à savoir par rapport à la politique qui a raison, qui a tort. Je suis plus dans l'idée, mon questionnement il est plus sur voilà, aujourd'hui comment on peut faire pour que les décisions et que le pays ressemblent un peu plus à ce qu'on attend. Et le constat c'est qu'on a une classe politique où à partir du moment où ils sont élus, ils sont presque dans une attitude de dire bon maintenant c'est nous qui sommes à la barre, vous n'avez plus rien à dire et on mène le bateau là où on veut. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très bien qu'il y ait des mouvements de résistance citoyenne qui ne soient pas que dans la contestation, mais qui proposent des alternatives, une réflexion, et puis peu à peu, on va dire que ça peut agir un peu par capillarité, et puis finalement donner des résultats.
Alors, dans donc Silence sur le quai, il y a la rencontre avec le comité pluraliste de réhabilitation, de défense et de promotion de la lignée SNCF Béziers-Neussargues-Clermont-Ferrand-Paris. Ça, c'est pour la continuité au-delà de Neussargues. Et donc, effectivement, ils ont été force de proposition, puisqu'ils proposaient des innovations pour faciliter le fret ferroviaire. Il y avait vraiment un argumentaire très, très solide. Comment se passent ces rencontres avec ces acteurs très forts de la contestation? Quelles sont les émotions qui passent pendant ces entretiens et après?
Ben, c'est des entretiens qui souvent sont un petit peu au dernier moment, c'est-à-dire que avant d'aller sur place, je contacte un peu les uns les autres. Et après, ben, en fonction de là où je suis, de leur disponibilité, on se retrouve soit dans la gare de Bédarieux, ça peut être dans un café, ça peut être dans les vignes, sur un morceau de chemin, ou dans le train. Donc à chaque fois, c'est l'idée est d'être dans une rencontre chaleureuse. À chaque fois, ça a été oui, des échanges très, très humains, très, très concrets aussi, et en toute simplicité. Et ça m'intéresse, ce côté, voilà, de vraiment une relation, un récit qui se fait vraiment à hauteur d'homme.
Finalement, Alain Bujak, quel est l'objectif d'un tel livre? Est-ce que c'est de témoigner de ce qui s'est passé, mais pour l'avenir, par exemple, de cette ligne?
Vous me posez un peu une colle, là, parce que à la fois, je me rends compte, voilà, quand on raconte une histoire comme ça, on peut être... Ça peut être considéré comme une forme de parti pris. C'est vrai qu'il y en a un aussi, parce que je me dis que si cette ligne-là avait fermé, bon, bah, ça montrait clairement que ces territoires-là, on les laisse dans leur isolement. Donc c'est presque une punition, j'allais dire. C'est aussi une réflexion sur cette notion de vitesse qui est partout présente. La notion de performance, c'est qu'il faut que tout aille vite. Et là, bon, on voit un peu où ça nous conduit d'un point de vue sociétal et puis environnemental, cette mentalité-là, que moi je rattache à l'ultralibéralisme économique. Et puis voilà, quoi. Et puis c'est cette idée que bah, chacun a le droit, on peut quand même être libre de dire je préfère voyager en train qu'en bus ou en voiture.
Comment se fait le lien et l'écriture avec le dessinateur avec qui vous collaborez, puisque vous avez travaillé avec plusieurs dessinateurs. À quel moment lui intervient? Est-ce que, par exemple, pour Le Bruit de l'eau, Laurent Bonneau, vous avez accompagné pour les entretiens et comment ça se passe pour
Elliot Royer? Ouais, avec Elliot, on est descendus tous les deux... tous les deux sur place, donc sur 4-5 jours. Donc il me suit dans toutes les rencontres. Comme nous, on est tous les deux en région parisienne, on avait pas mal de kilomètres, donc ça permet aussi d'échanger, de parler. Et puis au fur et à mesure, lui fait plein de croquis. Moi, je fais aussi des photos. Après, je m'isole un peu dans mon coin pour vraiment écrire le scénario. Et après, je lui confie. Et c'est là que c'est un peu magique, parce que quand ça fonctionne vraiment bien, comme ça, qu'on est un peu sur les mêmes longueurs d'onde, sur les mêmes sensibilités, bah pour le scénariste, c'est vachement agréable, parce que je vois les pages se faire, je revois des scènes, et puis dans son dessin, ça qui est une douceur, il y a une vraie poésie, un peu de nostalgie. Donc c'était une très belle collaboration.
Et parallèlement, Alain Bujak vous apporte la photographie pour l'écriture, pour votre écriture.
Une narration. C'est-à-dire, je continue à faire des photos, j'adore ça, mais de plus en plus, je travaille sur des carnets, donc c'est photo, texte, et puis le dessin, c'est venu un peu, enfin de collaborer avec les dessinateurs, c'est venu un peu... d'une manière un peu inattendue, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Puis de temps en temps, avec le dessinateur et l'éditeur, si on juge opportun de rajouter des photos, on en rajoute.
Ce qui n'a pas été... Si, c'est les photos du viaduc de Garabit qui sont intégrées dans le paysage d'Elliot Royer. Parce que ça doit être un morceau de bravoure de dessiner un viaduc comme ça.
Oui, il y a deux planches là où moi il m'a vraiment bluffé, c'est justement le viaduc, où là il y a un travail remarquable de dessin, et un autre là où c'est vraiment un travail de moine de patience, qui est la double page là, sur les manifestations.
Ah, tout, oui.
c'est rempli de personnages. Et là, il a dû maudire un peu en disant mais pourquoi il veut une double page avec tant de personnages et tous ces panneaux et tout. Mais c'est super beau, quoi.
Alors justement, dans l'écriture, qu'est-ce qui était important pour vous avec cette double page d'une manifestation où on a un lointain qui est précis puisqu'on a des personnages qui sont présents même à l'arrière-plan de l'image?
Ben, là, ce qui est chouette et ce qui est un peu la magie de la BD quand c'est comme ça, c'est que on arrête d'écrire et c'est le dessin qui fait la narration, tout seul. Donc il y a une vraie passerelle qui se fait entre le texte et le dessin. Et après, voilà, ça repart sur des cases, on va dire, plus classiques.
Alain Bujak, quel document présentez-vous à Elliot Royer quand vous collaborez?
Bah, c'est un scénario qui est écrit vraiment, j'allais dire, un peu comme une pièce de théâtre, avec tous les dialogues. Je mets pas mal de descriptions aussi, donc ça, je pense, ça vient de mon côté un peu photographe, où je mets beaucoup d'indications pour le dessin, sur les ambiances, les lumières. Après, voilà, bah, Elliot ou le dessinateur général pioche dedans ce qui l'intéresse parce qu'il vit aussi à sa propre vision. Mais sinon, ça serait assez comparable à l'écriture d'une pièce de théâtre tout en dialogue.
Et comment se peaufinent ces dialogues? Est-ce que vous revenez sur les dialogues une fois que la mise en image est faite pour que ça colle au plus près?
Bah, d'une manière générale, ça... D'entrée, ça colle plutôt pas mal. Après, une fois que je commence à avoir le storyboard, je me replonge dedans parce que j'ai un peu le défaut d'être trop bavard, comme dit mon éditeur, c'est-à-dire qu'il a peut-être à apporter trop de texte. Donc à ce moment-là, j'essaye de faire toutes les coupes qui sont nécessaires pour que déjà on soit vraiment plus dans une écriture de parler, qu'on sente que c'est vraiment une discussion et que c'est pas une discussion réécrite. Et d'être plus concis pour qu'il y ait un rythme dans la narration.
Et donc, parce que le projet, vous l'évoquez dans votre livre, démarre avec le confinement, on est en 2021, peut-être même un peu avant. Comment vous portez un tel projet pendant tout ce temps-là? Puisque le livre est sorti ce trimestre.
C'est peut-être le livre qui me porte finalement, parce qu'à partir du moment où je commence à avoir une idée comme ça, je réfléchis un peu, ça gamberge, je commence à écrire ce qu'on appelle une note d'intention, j'essaie d'estimer un peu où ça peut m'amener, et au fur et à mesure, voilà, ça fait partie presque d'une pensée quotidienne jusqu'au moment où je commence à trouver des formules où je trouve l'axe qui m'intéresse pour raconter. Là, souvent aussi, j'ai une phrase en tête de l'auteur de BD, là, Emmanuel Guibert, là, que je connais bien, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, et qui me dit, quand tu veux raconter une histoire, la question qu'il faut que tu te poses, c'est pas comment tu veux raconter, mais comment tu aimerais qu'on te raconte. Et à chaque fois, là, je fais cette petite gymnastique dans ma tête, et au bout d'un moment, j'allais dire, c'est un peu comme un goutte à goutte sur une éponge, quoi. Et à un moment donné, je sens que ça y est, j'ai suffisamment de matière, que dans ma tête, ça s'éclaircit, et puis à ce moment-là, je commence l'écriture.
Alain Bujak, je vous propose une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer de préciser l'écriture de votre livre « Silence sur le quai ». À tout de suite. Vous êtes à l'écoute de Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Alain Bujac, scénariste, photographe et auteur donc du livre Silence sur le quai, mis en image par Elliot Royer. Comment s'est passée cette rencontre avec Jean-Claude Guesso ? Parce qu'il a un rôle important dans l'histoire quand même. Et est-ce que cette rencontre avec les politiques nécessite une approche particulière ?
Je pense que Jean-Claude Guesso, je pense que ça va être un peu un extraterrestre dans le milieu politique. Parce que déjà, moi je ne l'avais jamais rencontré, on ne se connaissait pas du tout. On s'était juste parlé un petit peu au téléphone. D'entrée, c'est tutoiement obligatoire, sauf qu'il ne veut pas de hiérarchie, j'ai été ministre, pas vous et tout, c'est tutoiement. Et c'est quelqu'un d'hyper chaleureux, de très pragmatique. Je veux dire, on sent un côté un peu rural, quoi. On lui raconte pas d'histoire. Et après, voilà, il est le premier à dire que voilà, la politique, c'est un milieu. Voilà, où il y a des tapes dans le dos pour dire c'est super ce que tu vas faire, et puis après, c'est un beau croche-patte, et puis et votre projet tombe à l'eau. Donc il a tous les tenants et les aboutissants, et il en parle d'une manière très simple et très concrète.
Est-ce que dans l'écriture de Silence sur le quai, il y a des parties que vous avez abandonnées parce que ça ne fonctionnait pas dans l'ensemble ?
Oui, peut-être sur des parties, j'allais dire peut-être un peu contemplatives, de descriptions, par exemple de paysages qui défilent à travers les fenêtres du train, où ben, voilà, il y avait une forme de redite. Mais ça, c'est des choses que je vois, que quand je l'écris, je m'en rends pas compte, mais quand je vois le storyboard arriver, c'est là que je me dis, ah non, ça, on n'en a pas besoin. C'est raconté plus loin, ou soit Elliot le suggère déjà dans le dessin. Donc c'est à partir du moment où je commence à voir des planches un peu arriver, enfin, ou des ébauches de planches que j'arrive à voir où il faut faire des coupes à nouveau.
Alain Bujac, est-ce que vous écrivez votre récit en pensant au dessinateur ? Ou est-ce que vous finalisez les scènes, les images que vous imaginez en pensant au dessinateur ?
Oui, ça c'est quelque chose qui est même très agréable. Parce que si, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien écrire aussi sur la notion de description. Là je me dis, mais non, ça c'est la part qu'il faut laisser, là en l'occurrence à Elliot, c'est son domaine. Et d'avoir ce petit... Voilà, cette passation à faire, c'est quelque chose qui amène pas mal de complicité et qui est très agréable.
Et pour la couleur, quelles sont vos discussions ensemble ?
J'essaye de pas intervenir. Parce que je me dis, voilà, un dessinateur, c'est un artiste, il a son monde, il est un peu dans sa cosmogonie. Et si on intervient trop là-dedans, je pense que ça le bloque et que le résultat sera moins bon. La preuve, c'est que son dessin est poétique. Enfin, il y a une vraie sensibilité, une vraie écriture. Donc voilà, c'est un peu un principe, puisque ça se fait d'une manière naturelle, mais voilà, c'est son truc. J'ai pas à intervenir dedans, sauf si vraiment il y avait j'ai pas une erreur, par exemple, de personnage ou de choses comme ça, mais bon, ça c'est une correction, c'est-à-dire pour l'information, pour la narration, mais pas sur le style du dessin.
Parce qu'il y a une mise en couleur qui est plutôt, que je trouve très réussie, notamment sur le ciel. On a parfois un ciel jaune qui est plutôt froid, et il y a un gros travail sur l'atmosphère. Comment vous avez lu ces pages terminées, Alain Bujak?
Avec de l'émotion, parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est long de faire une BD. Quand le résultat final arrive et que c'est beau, enfin, comme grâce au travail d'Eliott, bah, c'est vachement satisfaisant. Puis ça ramène plein de souvenirs. Et puis c'est vrai que c'est quand c'est comme ça, on pense aussi au lecteur. On se dit tiens là, il y a une poésie, des atmosphères. On a bien retranscrit les paysages, les ambiances, et puis après, bah voilà, on se dit maintenant c'est pour le lecteur, quoi. Le livre fait son chemin. C'est une relation entre le livre et le lecteur, après avoir été une relation entre l'auteur et le livre.
Est-ce que, Alain Bujak, vous avez aussi envie d'une écriture documentaire qui peut être très appropriée, par exemple, pour retranscrire des entretiens, ou est-ce que ce traitement par la bande dessinée vous est à vraiment votre faveur?
J'aime beaucoup la bande dessinée, ça c'est évident. C'est vrai aussi que j'aimerais beaucoup faire des livre un peu carnet d'entretien, peut-être à partir de mes photos aussi. Mais là, c'est un sujet qui est une réalité aussi, c'est que ce type de livre, je ne trouve pas preneur. C'est-à-dire que les livres style carnet de voyage, les libraires n'en veulent pas, ça ne se vend pas. Donc du coup, c'est vrai que c'est une réalité du marché qui fait qu'on est obligé de se poser la question de comment raconter et où est-ce que le livre peut trouver sa petite place dans un marché qui en plus souffre en ce moment, quoi. Mais tout ça pour dire que j'aimerais pouvoir partir sur d'autres formes de livres.
Qu'est-ce que va permettre Silence sur lequel, alors c'est pas le premier dans ce registre. Est-ce que vous avez déjà une thématique sur laquelle vous avez commencé à travailler, puisque finalement, pendant le cheminement de Silence sur le quai, il y a d'autres livres qui sont sortis?
Alors, dans ceux qui sont sur lesquels j'ai terminé l'écriture et qui sont en préparation, j'en ai un sur qui raconte la vie d'un ingénieur un ingénieur agronome qui est aujourd'hui à la retraite et qui a passé 30 ans en Afghanistan et qui finalement a permis à plein de populations, enfin à des petits villages, de trouver une autarcie alimentaire et surtout de gérer des systèmes d'irrigation. Donc c'est une vie qu'il a eue là-bas, mais complètement insensée, parce que c'est quelqu'un qui s'est fait kidnapper, qui s'est échappé. La dernière fois qu'il est retourné en Afghanistan, il y a 2-3 ans, là, il a été fait prisonnier par les talibans pendant 3 semaines. Il est rentré, enfin, c'est une espèce de Tintin des temps modernes. Et en plus, il a un regard sur l'agriculture qui est hyper intéressant. Et j'en écris un autre qui reste dans le domaine de l'agriculture, où là, ça fait 2 ans que je suis 4 agriculteurs qui sont dans la plaine de Beauce. Donc c'est un peu volontairement que j'ai été sur ce territoire-là, parce que c'est vraiment un peu le symbole de l'agriculture intensive. Et voilà, c'est des gens qui sont en pleine réflexion sur leur métier, sur l'environnement, qui cherchent un nouveau modèle, de nouvelles pratiques, qui plantent beaucoup de haies, et tout ça va être accompagné d'un entretien qui sera un peu le fil d'Ariane avec un sociologue spécialisé dans l'agriculture. Voilà, sur les projets à suivre.
Merci beaucoup, Alain Bujak, pour ces précisions. Et donc, je vais rappeler les caractéristiques de votre livre. Donc, il est édité par les éditions Futuropolis. Et son prix, alors, je crois qu'il doit faire 112 pages ou 116. Le prix du livre est de 19 euros. Il a été accompagné aussi par le Centre national du livre. Merci beaucoup, Alain Bujak, et très bonne continuation. Merci. Au revoir.
Merci. Thank you.
Je voudrais finir cette émission avec le livre de Cécile C, Ce que Cécile sait, journal de sortie d'inceste. Lorsque j'ai reçu ce livre, j'ai eu des difficultés à m'engager. Je n'arrivais pas vraiment à me lancer dans sa lecture, d'une part parce qu'en le feuilletant, il y avait cette présence du texte importante dans chaque case. Le dessin était souvent une petite partie. Il y avait parfois des dessins très enfantins, d'autres un peu plus appuyés, mais c'était juste quelques dessins au trait, quasiment pas de décor. Et puis régulièrement, il y avait ces pages ocre qui étaient entièrement consacrées au texte, souvent des commentaires, des analyses, des citations, à en juger par la structure des textes. Et puis j'ai lu la préface d'Édouard Durand, qui est le président de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et là, il a rappelé les chiffres. 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, 32 000 témoignages recueillis sur la plateforme que la CIVIS a mise en place, 82 préconisations pour enrayer et véritablement agir sur cette cause nationale. Et malgré cela, eh bien, on ne retient pas les préconisations et rien n'est fait. Cécile C qui agrippe le lecteur très astucieusement avec des cases assez aérées, avec quelques phrases fortes comme celle de la page 10. L'inceste, ce n'est jamais une histoire entre deux individus. C'est toujours une histoire de famille, de domination, de savoir qui commande et qui regarde ailleurs. Cécile C, dans ce roman graphique, va raconter comment elle est sortie d'amnésie traumatique à 40 ans en se rendant compte qu'elle avait été victime d'inceste. Elle va effectuer une enquête personnelle pour assembler les pièces du puzzle traumatique et dénonce l'ampleur du phénomène au sein de notre société. Chaque scène est un moment d'analyse dans lequel un souvenir est exhumé. Et Cécile C, par son parcours, par son cursus, va donner à ce livre une ampleur qui va bien au-delà du simple journal. Elle a fait un DEA de philosophie, de l'art sur les questions de sens, elle a fait les Beaux-Arts de Paris, et elle va donc s'engager aussi dans une création artistique, et notamment aussi sur la photographie. Lorsqu'on s'immerge dans ce livre, puisque très vite, c'est ce qui se passe, c'est que la lecture va nous attraper, on sent que chaque mot est pesé. Il y a une construction qui est très astucieuse, où, par petits chapitres, Cécile C va nous présenter toutes les ramifications de ce qu'est l'inceste. Alors bien sûr, elle va partir de son exemple personnel. Le principe de ces petits chapitres sont tout à fait efficaces. Une page de titre, et puis la séquence de bande dessinée avec des cases plus ou moins marquées. Et parfois, il n'y a pas de cadre. Il y a parfois des textes plus abondants que d'autres. Et puis, à la fin du chapitre, il y a cette page ocre qui reprend le titre de la première page et qui va donner le point de vue, soit à partir de témoignages de Cécile qui ainsi complète l'explication donnée par la bande dessinée. Elle va aussi citer un grand nombre d'auteurs, puisque ses lectures sur cette question fondamentales sont importantes. Elle a une connaissance maintenant très précise de tout ce que représente l'inceste. Et Elle va aussi faire des citations justement de ces auteurs qu'elle a lus et qui, à chaque fois, elle en extrait des phrases essentielles. Il y a des chapitres auxquels on ne s'attend pas, comme par exemple l'incestuel, qui désigne un mot qui désigne lorsqu'il n'y a pas de pénétration dans l'agression sexuelle et qui fait dire à certains, ah mais c'est moins grave parce que il n'y a pas eu de viol. Et en fait, elle démonte ses propos en citant, rappelant, argumentant sur l'importance du traumatisme causé par l'incestuel en tant que tel. À chaque fois, il y a une précision qui fait que cette déconstruction complète de l'inceste permet de mesurer toute la dimension du problème et l'obligation de s'attaquer en profondeur à ce mal absolument honteux. Le texte devient un élément fort du récit. À chaque fois, Cécile C. va l'utiliser pour ce qui va apporter de précision. Le dessin, qui a une palette, une amplitude assez importante, il va être très enfantin lorsqu'il s'agit de marquer ces moments où la domination est très forte. Et donc, il n'y aura pas de scènes qui vont représenter le moment de l'inceste. Et il va y avoir, au contraire, un dessin au trait plus soigné, plus précis, avec des expressions où l'attention du dessinateur de Cécile C. est là. Et donc, on a ainsi une palette d'images qui vont donner aussi une dimension à ce livre. Il faut savoir que le père de Cécile C. est médecin, c'est un notable, il a une autorité et dans la famille, cette autorité est écrasante. C'est un livre essentiel de par la maîtrise de son écriture, la construction qui est établie, l'utilisation du dessin qui apporte à la fois des respirations, mais aussi des précisions sur toutes les situations. C'est un livre qui doit être dans toutes les bibliothèques publiques, dans tous les lieux de santé, dans tous les lieux psychiatriques, pour qu'il y ait vraiment une possibilité de que cette transmission se fasse au mieux. C'est une très grande réussite. Je regrette même un peu ma réserve d'avoir tant attendu pour lire ce livre. Il est sorti le 25 septembre et ça reste un livre d'une nécessité absolue. Ce que Cécile sait, le journal de sortie d'inceste de Cécile C., c'est publié par les éditions Marabout dans la collection Marabulle. Les 256 pages de ce livre sont au prix de 23 euros. Merci Marin pour cette technique et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un entretien avec Michel Durand pour son très beau livre sur les travailleurs de la mer d'après Victor Hugo. Bonne semaine à tous et très bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.